France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, avec vous sur France Culture en ce dimanche matin. Jean-Luc Gadreau pour Soleil, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, dont nous parlions déjà dimanche dernier. Une date qui nous rappelle qu'il demeure des combats encore à mener, des dignités à relever. Et dans Soleil, nous avons choisi de donner ce matin la parole à deux autrices qui, chacune à leur manière, explorent d'une certaine façon la condition humaine dans ce qu'elle a de plus fragile et puis aussi de plus lumineux. L'une est pasteur et romancière, elle scrute les failles à travers un roman noir. L'autre, psychanalyste, nous invite à redécouvrir l'élégance comme une force intérieure. Après une page cinéma aussi consacrée au film La Maison des Femmes, nous prendrons donc le temps d'une rencontre croisée avec Vanessa Trubbe, autrice de De Pierre et de Chair aux éditions Favre, et Catherine Terninck, qui publie L'Esprit d'élégance chez Desclés de Brouwer. Bienvenue dans Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture. Avant d'échanger donc avec mes deux invités de ce matin, je voulais donc parler quelques instants d'un film sorti mercredi en salle. Ce genre de film qui ne fait pas forcément beaucoup de bruit, mais qui laisse de belles traces dans les cœurs. C'est La Maison des Femmes, réalisé par Mélissa Godet, et il est de cela.
La Maison des Femmes, bonjour.
Alors, c'est Amina, c'est ça?
C'est un espace pour elle, pour qu'elle puisse penser à autre chose.
Et là, on donne tout. 3, 2, 1...
Notre structure est menacée de fermeture à moyen terme.
Et elles font quoi, du coup, les patientes, sinon on ferme?
Il faut qu'on devienne inévitable. On va pas se laisser faire, croyez-moi.
Mon mari est quelqu'un de formidable, mais il finira par me tuer.
Putain, mais si nous, on peut pas être là pour celles qui ont pas pu éviter le pire, ça sert à quoi, là, les statistiques, là, tout ce bordel, là?
Ah, j'ai encore passé pour la ouf de service.
Oh, moi, tu sais, ça me dérange pas les oufs.
Bah évidemment, c'est ton fond de commerce.
Amina, souris-moi.
J'arrive pas.
T'es magnifique.
Mais ouais, t'es une bombe, Amina. Beyoncé, quand elle se réveille le matin, elle est comme nous. Hein.
Ah, même pis, si ça se trouve. Hein.
Amina, Amina.
Fière, puissante.
Amina, Amina, Amina.
Vous avez totalement le droit d'être en colère. Vous avez le droit de le dire.
Si on veut qu'elle puisse tout nous dire, faut qu'on ait l'air capable de tout entendre.
Et puis quand ça marche pas, on va se brûler la gueule.
Et du coup, vous faites quoi ce soir?
Évidemment, on rêve tous du jour où une structure comme la nôtre sera devenue inutile. Mais en attendant, nous avons besoin d'aide.
Il n'y en a pas beaucoup des gens qui changent la vie en mieux.
Inspiré d'un lieu bien réel, ce film nous plonge dans un centre d'accueil dédié aux femmes victimes de violences, un espace fragile et pourtant puissant où la parole circule, où les corps se réapproprient leur histoire, où la reconstruction se fait pas à pas. Porté par l'intensité de Karine Viard et la justesse de Laetitia Doche, le film évite en fait le pathos comme le didactisme. Il choisit plutôt la proximité, le regard à hauteur de femme. La Maison des Femmes n'est pas seulement un film sur la souffrance, c'est un film sur la solidarité, sur la sororité, sur ses gestes minuscules, un café partagé, une main posée, qui permettent de se remettre debout. Et en cette journée internationale des droits des femmes, ce film rappelle que les droits ne sont jamais abstraits, ils s'incarnent dans des lieux et dans des combats quotidiens. Et il dit avec pudeur que la dignité n'est jamais totalement détruite. Elle peut être blessée, ensevelie, mais elle attend parfois simplement qu'un espace sûr lui permette de respirer à nouveau. C'est La Maison des Femmes, un film nécessaire, humain, profondément habité, que je vous recommande bien évidemment. Et puis en quelques mots encore sur un spectacle remarquable et bouleversant, celui proposé au Théâtre de la Pépinière à Paris chaque jeudi à 21h par le journaliste et historien Thomas Negaroff, spécialiste des États-Unis contemporains, qui propose « Il ne mérite pas tes larmes » inspiré de son livre « Little Rock 1957 ». C'est un seul en scène, enfin à deux, accompagné du clarinettiste Xavier Bussy. Ils font ensemble revivre l'histoire des 9 premiers lycéens noirs, admis en 1957 dans un lycée jusque-là réservé aux Blancs à Little Rock, dans l'Arkansas, aux États-Unis. Assis, Negaroff raconte avec précision le travail de l'historien et du journaliste, et puis debout, il incarne les élèves, les parents ou les opposants, en donnant au récit une force très humaine. Il y a également la clarinette qui accompagne cette parole avec finesse, tandis que des photos d'époque et quelques archives sonores ancrent l'histoire dans le réel. Un spectacle qui impressionne par sa justesse, et j'en profite pour vous signaler d'ailleurs que Thomas et Xavier seront mes invités dans cette émission le 7 juin prochain. Bonjour Catherine Terling, bonjour Vanessa Trubb.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous avoir dans cette émission parce que je dois d'abord vous confesser que le choix de vous inviter toutes les deux correspond vraiment à deux coups de cœur que j'ai eus pour vos livres respectifs, que j'ai découverts plus ou moins d'ailleurs en même temps. Alors je commencerai avec vous Vanessa, votre roman est un polar sombre, traversé par la violence, la dureté des paysages comme des êtres, avec notamment en ouverture de ce livre un chapitre 1 redoutable qui met tout de suite dans l'ambiance si j'ose dire. Alors une question que l'on doit sans cesse vous poser j'imagine, mais qui est indispensable, qu'est-ce qui vous a conduite en tant que pasteur vers cette forme littéraire ?
Deux raisons. D'abord, je suis fan de polar, donc j'avais envie de m'essayer à cela. Et puis, ce genre littéraire me permet de retranscrire au mieux mes émotions, de retranscrire ce dont je peux être dépositaire ou témoin dans le douloureux du monde ou de vie plus personnelle. Voilà.
Catherine Terling, votre livre a un très joli nom. L'esprit d'élégance, résister à la vulgarité du monde. Et il propose une réflexion surprenante, mais très séduisante. L'élégance n'est pas une question d'apparence, mais c'est une manière d'être au monde. Alors, comment définiriez-vous cette élégance intérieure ?
Eh bien, tout est là. Je partirai de la différence entre l'élégance et l'esprit d'élégance. L'élégance aurait pu être un livre écrit par un couturier. L'esprit d'élégance est écrit plutôt par un psychanalyste. C'est-à-dire, au fond, à partir de l'intuition esthétique, qu'on va rapidement déborder, mais par la forme, tout commence, on va s'interroger sur l'existence d'une élégance stylistique, d'une élégance littéraire, d'une élégance altruiste, d'une élégance de cœur, même affective, qui va nous mener à l'élégance spirituelle. Et au fond, ce livre a été écrit à partir de l'intuition que la plus grande forme d'élégance, relevée de l'esprit, était spirituelle.
Alors, on est là avec deux univers très différents, radicalement différents. On a en apparence un roman noir et puis un essai autour de l'élégance. L'une explore d'une certaine façon la noirceur, l'autre plus une forme de grâce. Mais ne parle-t-il pas finalement, au fond, de la même humanité et d'une espérance possible malgré tout, Vanessa ?
Oui, j'ai voulu vraiment qu'il y ait de l'espérance dans ce livre. Au-delà du tragique, du transgénérationnel, au-delà de la question du mal originel que j'essaye de travailler et qui relève finalement plutôt d'un système patriarcal dont les femmes ont été victimes pendant des siècles, il y a une espérance que l'amour peut quand même transcender et peut amener du beau et du lumineux. Donc il y a quand même cette catharsis-là possible au travers de certains personnages. Et c'est vraiment ce que j'essayais de pointer, montrer que là, il y a quelque chose de plus fort que tout.
Catherine ?
Oui, je fais écho à ce que vient de dire Vanessa. C'est-à-dire que je crois que aujourd'hui, plus que jamais, l'espérance est très sollicitée. Alors je dirais personnellement que l'espérance commence là où l'espoir finit. C'est-à-dire que ce qui différencie l'espoir et l'espérance, c'est que l'espoir a un but. J'espère être sûr de mon examen, j'espère que ce soir on m'attendra à la gare, j'espère que je serai peut-être déçu. Alors que l'espérance, qui est une disposition d'esprit, que je qualifierais d'élégante, ne peut pas être déçue. C'est ce que dit Saint Paul. L'espérance ne trompe pas.
Ne trompe pas. Pourquoi la fragilité est-elle un lieu si fécond, justement ?
C'est Henri Beauchaud qui disait qu'on entend mieux d'une blessure que d'une oreille. C'est-à-dire qu'il faut sans doute avoir vécu soi-même et compris quelque chose de la fragilité humaine pour aussi aller vers sa force. Quelqu'un qui n'a pas traversé d'épreuve, quelqu'un de très jeune, je ne sais pas s'il peut faire ce métier de pasteur ou ce métier de psychanalyste. Personnellement, je dirais que c'est un métier de l'âge. Peut-être comme l'élégance d'ailleurs, tel que je l'entends.
Alors je voulais aussi revenir sur le sous-titre de votre livre, « Résister à la vulgarité du monde ». Vous dites d'ailleurs que l'élégance est souvent presque perçue comme l'emblème désuet d'un temps révolu. Et une forme de modernité sous couvert de liberté, d'évolution, de croissance, ouvre à ce que vous appelez vulgarité, donc entre guillemets. Vous la percevez où et comment ? Comment pourriez-vous développer cela ?
J'ai envie de vous répondre en boutade. Comment peut-on ne pas la percevoir aujourd'hui ? Elle est là. Elle est là dans les incivilités, elle est là dans le harcèlement, elle est là dans les armes blanches tirées dans les cours de récréation, elle est là dans les attaques de toute figure d'autorité, elle est là dans l'attaque des institutions, elle est là. Mais il ne faudrait pas en déduire que notre époque est plus vulgaire que d'autres. Chaque époque a sa vulgarité. La nôtre me paraît avoir sa spécificité dans le matérialisme ambiant, dans le consumérisme emballé dans lequel nous sommes tellement que nous pouvons ne plus le percevoir. Il est aussi dans la technologie. Enfin, nous vivons dans un ici-bas du monde et nous essayons d'améliorer au maximum cet ici-bas, ce qui après tout est une optique. Mais l'au-delà, oui, peut-être. Pourquoi pas ? C'est très hypothétique.
Alors, vous évoquez une forme de besoin de résistance, une élégance comme un refus de cette brutalité du monde, dans toutes les formes que vous venez d'évoquer. Est-ce que l'élégance est donc une force profondément subversive ?
Je dirais qu'elle est humaine, je dirais qu'elle est humanisante, telle que je la comprends, l'esprit d'élégance, qu'il soit dans le domaine de la culture, du langage, l'humour, la littérature, la culture, qu'il soit dans le domaine du cœur, l'empathie, la compassion, l'altruisme, qu'il ne soit pas trop narcissique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une altérité, mais elle est bien souvent narcissique. Tout retrait, toute discrétion relève de l'élégance. Si je devais définir l'élégance, l'esprit d'élégance, je dirais que c'est ce quelque chose, presque rien, qu'on a du mal à définir, qui doit peut-être rester indéfini, comme une distinction, comme une ascendance, comme une tension vers la beauté ou la vérité.
Vanessa, peut-être en écho justement à ce que Catherine vient de dire, dans votre roman, les corps et les vies porte des traces, vous n'esquivez rien. Dans votre quatrième de couverture d'ailleurs, les choses finissent en disant que votre intrigue est intense et interroge les origines du mal. Oui. Et bien entendu avec les chemins de résilience. Est-ce une manière de dire que la vérité humaine et spirituelle passe aussi par l'ombre ?
Je crois que nous expérimentons tous cela, que nous sommes faits de lumière et d'ombre. Mais je voulais réagir par rapport à ce que vous venez de dire, dans le sens où je trouve dans votre propos une manière merveilleuse de rendre compte de ce que Paul nomme justement les fruits de l'esprit, notamment celui de la bienveillance. J'ai trouvé que dans votre élégance de l'esprit, c'était cette arme absolue de la bienveillance qui n'est pas la simple empathie pour l'un ou pour l'autre, mais une posture intérieure qui a du coup une volonté de déploiement universel. Je trouve que là, il y a quelque chose de vraiment savoureux que vous mettez en miroir. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie vraiment pour cela.
Et puis Vanessa, il y a forcément votre regard de pasteur qui traverse votre écriture, et ce même dans un polar noir. En tout cas, il me semble nécessairement présent, puisque c'est vous qui écrivez, qui mettez aussi de vous dans cette écriture. Vous y parlez d'ailleurs de foi protestante, réformée, des vaudois, des paroissiennes et des paroissiens, il y a des pasteurs, il y a des traditions liturgiques, parfois même des textes bibliques évoqués. Il y a aussi des secrets de famille, notamment ceux liés à des abus passés qui influencent des comportements. Mais plus largement, où se trouve justement pour vous, face à l'horreur, au mal, cette possibilité de rédemption ? Où apparaît-elle ? Comment se vit-elle ?
elle apparaît dans le lien possible qui permet, par la parole exprimée, par la communauté qui soutient et qui accueille, de dépasser les horreurs, non pas de les nier, mais de les accompagner et de les dépasser pour faire vivre la communauté et proposer un vivre ensemble positif malgré tout. Mmh. C'est ce qui essaye d'être exprimé, notamment lors de l'enterrement de la jeune fille, d'Aurélie, avec cette liturgie qui est vraiment mot pour mot ce que nous avons co-construit avec ma collègue, la pasteur Carolina Costa, quand on a essayé d'avoir une liturgie de type inclusive, justement, ou au moment de l'accueil, lors du culte, où Nathan, l'inspecteur de police, vient pour la première fois. Donc il y a vraiment cette volonté de montrer que l'accompagnement, la parole libérée, permet de transcender et de dépasser sans nier l'horreur présente, de la prendre en charge, tout simplement. Alors oui, bien sûr que j'y mets beaucoup de ma vie pastorale dedans.
Forcément, ça se ressent.
Pour la simple et bonne raison que quand j'ai écrit cela, ce n'était pas du tout dans un but d'être publié, c'était pour moi. Donc c'est une autre forme de journal de bord, plus amusant, plus ludique, sachant que tout ce que je mets est romancé. Bien entendu, bien que je m'inspire de certaines choses, de certaines... de certains discours qu'on a pu me transmettre, voilà. Mais à chaque fois, c'est romancé, il ne s'est jamais passé ce qui s'est passé dans le premier chapitre.
Je reviens vers vous, Catherine. On croise les questions. Oui, et puis, il y a beaucoup de choses qui font écho dans ce que vous écrivez, à des choses identiques, similaires à une pensée. Et justement, sur cette question spirituelle, vous l'avez évoqué, vous abordez l'élégance aussi avec cette dimension spirituelle. Vous présentez l'élégance comme l'esprit d'élégance, comme une forme de dépouillement et de vérité, par exemple. Vous parlez de grâce, d'intuition spirituelle, de voie spirituelle de l'élégance. Je n'avais personnellement jamais pensé à la chose ainsi. Est-ce que vous y voyez donc une proximité avec une forme de vie intérieure, voire spirituelle, osons les termes, même une manière de vivre la foi chrétienne ?
Oui, je peux dire oui, spontanément, j'ai envie de dire, parce que, au fond, la spiritualité, enfin, il faudrait revenir peut-être sur la spiritualité, parce que c'est un mot valise aujourd'hui, c'est un mot que tout le monde utilise,
c'est vrai.
Le spirituel est un mot qu'on aime d'ailleurs prononcer, sans très bien savoir ce qu'on y met, mais c'est un mot qui fait plaisir, il y a des mots comme ça,
oui,
c'est comme un vêtement trop porté, à la fin,
il n'a plus de forme.
Alors, il faut, mais je pense que ça sera une évidence pour Vanessa, mais bien différencier la foi, le domaine de la foi, de la croyance en un Dieu de volonté ou d'amour, de l'appartenance religieuse qui rassemble des fidèles autour d'une pratique, de dogmes, de livres, de textes sacrés, et beaucoup d'autres choses, et la spiritualité. Ces trois dimensions étaient extrêmement liées dans les décennies précédentes. Depuis quelque temps, enfin, ça a dû être très graduel, mais au fond, les choses se sont très dissociées. On peut aujourd'hui être croyant, se dire croyant, et ne pas pratiquer. L'inverse a probablement toujours été. Et on peut surtout se revendiquer d'une spiritualité qui est athée. C'est ce que fait, par exemple, Comte Sponville, pour ne citer que lui. Alors, cette spiritualité, elle est dans l'air du temps, parce qu'elle est commode, au fond. Elle se passe de dogmes, elle se passe de beaucoup d'appartenance, elle se passe d'obligations. Et elle convient bien à l'individualisme contemporain. Alors, j'ai essayé de définir la spiritualité. En quoi l'élégance est-elle spirituelle ? Je dirais qu'elle, dans le meilleur des cas, lorsqu'on la comprend bien, s'exercer à être élégant, c'est, comment dirais-je, inviter la dimension spirituelle dans sa vie. On pourrait parler d'intermittence spirituelle, parce qu'on ne peut pas être tout le temps spirituel. On est temporel, on a notre journée à accomplir.
Cette vie intérieure dont je parlais, peut-être.
La vie intérieure, on peut la recontacter à certains moments. Mais l'intériorité est devenue rare aujourd'hui. L'intériorité est difficile pour chacun d'entre nous.
On est plus dans l'apparence, dans ce qui est plus extérieur, justement.
Et pour les jeunes générations qui ont grandi sur les réseaux et sur les écrans. L'intériorité, pour beaucoup de jeunes, c'est inconnu.
Ouais. Dans votre livre, Catherine, il y a aussi comme des formes de textes intermèdes entre certains chapitres ou thématiques. Ils sont écrits en italique et c'est un lien que je fais aux deux livres et je reviendrai vers vous tout à l'heure, Vanessa. Et il commence par « Je vous parle ». Je vous propose d'entendre l'un de ces « Je vous parle » qui est lu par le slameur Mick, que je trouve aussi toujours élégant dans sa démarche. C'est l'occasion de le souligner.
Un jour, un peu par hasard, vous posez les yeux et vous voyez. À quelques mètres de vous, une silhouette vive, un geste suspendu, un sourire ébauché, un regard porté loin. Ce pourrait être tout autre chose. Un visage dans sa solitude, une pudeur imprévue, une courtoisie de seuil, un simple merci. En d'autres circonstances, une sobriété, une lenteur, une patience. Dans cette brève vision, quelque chose se distingue. Quelque chose qui n'est pas tout à fait du monde, comme un appel à plus grand, une échappée vers la beauté ou la vérité. Vous êtes tenté de vous approcher, de demander « Qu'est-ce qui vous élance et vous élève ainsi ?» Vous voudriez savoir, vous insistez. D'où vient cette noblesse discrète, cette liberté souveraine ? Vous vous taisez pourtant, car vous le savez, il n'y aura pas de réponse. La grâce est ainsi, sans mots pour se dire. Vous n'en gardez dans les yeux qu'une impression de mystère. Qu'importe, vous avez vu, et la question ne vous quittera plus. Un autre lieu existerait-il ? Pourrait-on s'y laisser mener ? Serait-il possible d'y être ce que depuis toujours on aspire à être ?
Une réaction, Catherine, peut-être ? Rapide.
Non, j'assume mes mots.
C'était une surprise de
vous.
Oui, les,
c'est une jolie surprise, merci.
De vous les faire entendre de cette façon-là.
De me la faire faite.
Point commun, je disais, à vos deux livres, ces chapitres en italique, Vanessa, dans Deux pierres et deux chairs, il y a aussi, justement, comme deux histoires, deux manières de. Enfin, deux choses qui se racontent, l'une en italique et puis l'une en écriture normale. Vous pouvez nous en dire quelques mots, peut-être ?
Oui, tout à fait.
Tout dévoiler.
Non, il y a deux histoires en parallèle, mais qui se rejoignent forcément, puisque là, ça met en place comment des abus répétés, comment une parole silencieuse, comment un peuple qui a subi des choix politiques en Suisse à un certain moment donné, avec tout le terrible et le tragique de cela, mène finalement après une époque beaucoup plus contemporaine, une forme de tragique.
De ligne temporelle, finalement.
De ligne temporelle, mais qui finalement se retrouve dans un même tragique partagé au fil du temps. Et c'est cela qui se joue entre l'italique et le non-italique. Tout à fait, voilà.
Alors, on approche déjà de la fin de notre entretien. Il nous reste encore quelques minutes. Mais Vanessa, votre roman met justement en scène des personnages féminins confrontés à la violence, au silence, à la mort même. Il y a aussi une femme pasteur qui ne laisse pas du tout indifférent l'inspecteur Nathan, mais on n'en dira pas plus non plus. Et puis en même temps, toutes les femmes ne sont pas non plus forcément recommandables. Diriez-vous que votre livre est aussi une manière de donner voix finalement à celles qu'on n'entend pas ou pas suffisamment ? Y entendez-vous, vous personnellement, un écho naturel ?
Je voulais créer un personnage qui montre que le mâle radical traverse aussi le féminin.
Oui.
Mais qu'il ne vient pas de nulle part. On ne naît pas meurtrier, on le devient, c'est pas moi qui le dis. C'est donc important de redire que cette dureté-là, elle est aussi présente chez le féminin et que face à cela, eh bien, il faut pouvoir le prendre en charge parce que si la parole n'est pas entendue, s'il n'y a pas la possibilité d'être accueilli comme c'est exprimé dans la maison des femmes, alors le mal reste et perdure et se reproduit, malheureusement.
Catherine, envie peut-être de dire quelque chose à ce sujet aussi ?
Oui, peut-être rebondir sur la question du mal qui m'a beaucoup touchée dans votre lecture, dans la lecture de votre livre. Elle est omniprésente, elle est là, comme elle est là à notre époque. Je trouve qu'on nous donne beaucoup le mal à observer, à regarder, on est fasciné. Suffit pas d'aller loin, hein. On ouvre nos écrans et on voit le mal sous toutes ses formes le chaque soir. Par contre, volontiers, je vous poserai cette question à vous, pasteur. N'y est-il pas plus difficile aujourd'hui de penser le mal ? C'est-à-dire, par exemple, de le penser dans l'articulation au bien. Comme d'ailleurs, il faudrait penser l'élégance en articulation avec la vulgarité. Personne n'est totalement élégant, personne n'est totalement vulgaire, personne n'est totalement méchant, personne n'est totalement bon. Est-ce que les personnes que vous côtoyez, que vous accompagnez, ne sont pas en difficulté, par exemple, avec la culpabilité ?
Bien entendu qu'il y a quelque chose de la culpabilité, mais par rapport à cette question du mal, je m'inscris vraiment dans ce que Paul Ricoeur pouvait exprimer à ce niveau-là, et en même temps avec la figure du pasteur Wilfred Monod, qui expliquait que face au mal, l'inverse, ce n'est pas le bien, mais c'est l'indifférence. Et que finalement, le bien est toujours une catégorie qu'on va créer à partir d'un certain contexte, qu'on va exprimer à partir d'une certaine époque. C'était bien et légitime d'avoir, et légal, d'avoir des esclaves il y a quelques siècles. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, on dirait non, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est toujours quelque chose qui est à contextualiser. Par contre, l'indifférence, de la même manière que cette élégance intérieure, vous l'exprimez sur plusieurs registres, et bien de la même manière, voilà, cette manière d'être empathique de manière universelle dans la bienveillance par l'élégance aussi, c'est quelque chose qui recouvre les différents contextes spécifiques, temporels. À mon avis.
En tout cas, nous avons ouvert des portes et nos auditeurs pourront continuer de réfléchir à tout cela, notamment en lisant ces deux livres que je voudrais rappeler, de Pierre et de Chair aux éditions Favre, Vanessa Trubb, et L'Esprit d'élégance, chez Desclés de Brouwer, par Catherine Terninck. Merci beaucoup à vous deux. Nous avons traversé des territoires contrastés. La noirceur du roman, la délicatesse de l'élégance, la violence du monde, la ténacité de celle qui refuse d'y céder. À travers vos mots, une conviction se dessine, celle que la dignité humaine et l'élégance sont un combat, parfois silencieux, souvent fragile, mais toujours possible. Merci à vous deux, et puis tiens, très vite encore, je glisse trois recommandations de livres très différents de ceux évoqués ce matin, mais très beaux. Les deux premiers s'adressent aux plus petits, puisque dimanche dernier, on fêtait les grands-mères chez Biblio, et bien vient de sortir « Mamie, prie pour toi », une jolie histoire de famille ours et de prière. Et puis chez Olivetan et Ref Édition, « L'arbre qui menait au ciel ». Là, c'est l'histoire d'une petite souris qui part à la découverte, justement, Catherine, de son monde intérieur. Un travail réalisé en famille par Corinne et Élise Vonaech, Élise qui était déjà venue dans Soleil pour son roman « Clandestine ». Et pour finir, un tout petit livre délicieux d'un auteur que l'on connaît aussi très bien dans Solae. Pour d'autres livres, c'est Aurélien Clapp qui, après YouTube, Psaume électrique et Martin Scorsese, Filmer la passion, signe maintenant chez Empreinte temps présent, Haïku selon Saint-Marc, audace et intelligence des mots, avec un florilège de très courts poèmes de trois lignes pour célébrer le sens et l'harmonie du monde. Et puisque la grâce fut aussi bien présente dans nos propos, Grâce infinie pour se séparer, une version française du célèbre Amazing Grace à retrouver sur l'album Lumière du monde, produit par l'Église protestante unie de France. Grâce infinie. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Camille Maty, et avec Julie Garraud à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org et à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 ce matin, dans Présence protestante à 9h22, horaire toujours décalé en raison cette fois-ci de la diffusion des Jeux paralympiques d'hiver. L'émission Écriture, présentée par Marion Muller-Collard, qui rencontre Valeria Milewski, docteur en sciences du langage, fondatrice de l'association Passeurs de mots et d'histoire et biographe au service d'oncologie du centre hospitalier de Chartres. N'oubliez pas non plus notre rendez-vous sur France Culture à 16h pour la troisième du Carême protestant, où je serai avec la pasteur Nathalie Chaumet, une émission où élégance et subversivité seront justement au programme avec la grâce d'un geste, à partir du récit de la femme qui répand du parfum sur les pieds de Jésus. Sur France Culture, à bientôt 9h, ce sont vos informations, puis talmudiques, présentées par Marc-Alain Wachnin. Et je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun.